Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grodidi avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Plus d'un milliard de jeunes risquent de perdre une partie de leur oui en écoutant de la musique trop forte.
Les jeunes aiment écouter la musique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance par rapport au danger que cela représente.
Le docteur Étienne Krug, directeur à l'Organisation mondiale de la santé, nous en dira davantage. On marquait cette semaine la journée mondiale de la vie sauvage. Lancement en Guinée d'un essai de phase 3 pour tester l'efficacité d'un vaccin canadien contre le virus à Ebola.
Il s'agit des candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola qui sont les plus avancés en termes de développement clinique.
On suivra les précisions du docteur Marie-Pierre Preziosi, spécialiste des vaccins. Et la sonde Dawn de la NASA, l'agence spatiale américaine, est arrivée près de la planète naine Cérès aux confins du système solaire. Plus d'un milliard d'adolescents et de jeunes adultes risquent de perdre une partie de leur oui à cause de l'utilisation dangereuse de dispositifs audio personnels, dont les smartphones, et de l'exposition à des niveaux sonores nocifs dans les boîtes de nuit, les bars ou encore les événements sportifs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la déficience auditive a des conséquences potentiellement dévastatrices, non seulement sur la santé physique et mentale, mais sur l'éducation ou encore l'emploi. Les données provenant d'études dans les pays à revenus intermédiaires et élevées, analysées par l'OMS, indiquent que chez les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 35 ans, près de 50% s'exposent à des niveaux sonores dangereux, résultant de l'usage de dispositifs audio personnels, et qu'environ 40% sont exposés à des niveaux sonores nocifs dans des lieux de loisirs. Or, une fois que l'audition est perdue, eh bien, elle ne reviendra pas. On écoute le docteur Étienne Krug, directeur à l'Organisation mondiale de la santé du département maladies non transmissibles, handicap, prévention de la violence et du traumatisme.
Les jeunes aiment écouter la musique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance par rapport au danger que cela représente. Je parlais encore aujourd'hui avec un musicien qui a fait de la musique pendant des années et qui, en tant qu'adolescent et jeune adulte, ne se rendait absolument pas compte des dangers auxquels il s'exposait et qui maintenant a vraiment une perte d'audition grave suite à cela. Donc la plupart des jeunes ne sont pas conscients et c'est à travers la campagne que l'Organisation mondiale de la santé lance que nous voulons attirer l'attention là-dessus.
L'écoute sans risque dépend de l'intensité du son, mais également de sa durée et de sa fréquence.
L'écoute sans risque peut se faire pendant de nombreuses heures si le volume est bas. Mais plus on augmente le volume, plus l'écoute sans risque est réduite en termes de temps. Donc, si on écoute à environ 85 décibels, ce qui est en fait le volume du trafic, par exemple, dans la rue, on peut écouter pendant une heure. Si on augmente le nombre de décibels, à ce moment-là, parfois, il suffit d'un quart d'heure pour déjà se mettre à risque.
Les lésions des cellules sensorielles de l'oreille sont-elles définitives ?
Une fois qu'on a perdu l'audition, elle est perdue pour toujours. Donc les lésions sont définitives et c'est important aussi de s'en rendre compte parce que ce n'est pas en arrêtant d'écouter de la musique que cela va se réparer. Donc une fois que c'est perdu, c'est perdu.
Aujourd'hui, les smartphones disposent de nombreuses applications. Y a-t-il des applications pour smartphones qui peuvent aider à contrôler le niveau sonore et permettre aux jeunes d'écouter de la musique, par exemple, sur leur mobile, sans risquer quoi que ce soit pour leurs oreilles ?
La technologie peut nous aider. La technologie peut nous aider à travers des applications de smartphone qui permettent de détecter le niveau de décibels autorisé. On peut aussi travailler avec les gérants de discothèques, les gérants de bars ou ceux qui organisent des événements sportifs pour que les volumes de la sonorisation soient limités à des volumes qui soient sécurs pour tout le monde. Et puis, il y a aussi des protections sous terme de tampons qu'on peut mettre dans les oreilles qui aident aussi à protéger les oreilles quand nous sommes dans des discothèques ou dans des concerts. Comme le font d'ailleurs les professionnels qui travaillent dans les concerts ou dans les boîtes de nuit, eux, ils se protègent. Les jeunes devraient faire la même chose.
Le docteur Étienne Krug, directeur à l'OMS, toujours selon ce spécialiste, les déficiences auditives chez les tout-petits sont souvent provoquées par des maladies.
Chez les enfants, l'une des principales causes de déficience auditive, et en particulier dans les pays à revenus faibles, sont les infections auriculaires non traitées, qui se manifestent souvent par des écoulements. Donc voilà, aussi certaines maladies infectieuses qui sont évitables par la vaccination, telles que la rubéole ou la méningite, peuvent aussi entraîner une déficience auditive. Donc souvent, la déficience auditive est due à des choses qu'on peut vraiment éviter à la base, mais beaucoup de pays n'ont pas des moyens pour le faire.
Et quelles sont les mesures que préconise l'Organisation mondiale de la santé?
Déjà, il faut prévenir. Donc, on a déjà parlé de la vaccination. Mais après, il faut identifier les personnes chez qui on n'a pas pu prévenir donc un problème avec lui. On parle notamment des enfants qui peuvent avoir une infection de l'oreille, mais si elle n'est pas traitée, l'enfant pensera que les écoulements de l'oreille, c'est quelque chose de normal pour lui. Et ces enfants, s'ils ne sont pas identifiés, ils vont faire mauvais à l'école et leur potentiel ne sera pas vraiment utilisé. Donc ça peut handicaper les gens pour la vie. Aussi, les gens qui, dû au vieillissement, développent des déficiences auditives, devraient pouvoir accéder à des appareils pour les aider. Or, on sait que seulement 3% des besoins pour des appareils auditifs sont couverts. Donc, il y a vraiment un manque de ce côté-là aussi.
Docteur Étienne Krug, directeur à l'Organisation mondiale de la santé du département maladies non transmissibles, handicap, prévention de la violence et du traumatisme. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Voici une bonne nouvelle pour les amateurs de caféine. Alors que plusieurs études ont montré ces dernières années que boire du café peut limiter les risques de maladies de Parkinson et d'Alzheimer, selon une nouvelle étude coréenne, le café serait également très bon pour la santé cardiaque. Les explications de Salwa Jafari.
Une graine aux nombreuses vertus, le café continue de livrer ses secrets. 3 à 5 tasses de café par jour réduiraient les risques d'artères obstruées et par conséquent limiteraient les crises cardiaques. La recherche a été menée en Corée du Sud auprès de plus de 15 000 hommes et femmes dont la moyenne âge était de 41 ans. L'étude révèle que les participants buvant beaucoup de café par jour afficheraient les plus bas niveaux d'accumulation de calcium dans les artères coronariennes. Le café est souvent accusé de tous les maux, limiterait également les risques de maladies de Parkinson, de l'Alzheimer, selon d'autres études. Avis donc aux amateurs de bon café, aux insomniaques, et nous en avons beaucoup à VOA Afrique, ne vous privez surtout pas.
Et sur le site du ministère américain responsable de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, on peut lire « La consommation modérée de café peut être incorporée à un régime alimentaire sain ». Ici Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé. On marquait cette semaine la journée mondiale de la vie sauvage et c'était l'occasion pour Survival International, une ONG qui milite pour les droits des peuples indigènes, de dénoncer les violations de leurs droits au nom de la préservation de la faune sauvage. Les peuples indigènes sont les meilleurs défenseurs de l'environnement mais sont expulsés illégalement de leurs terres ancestrales au nom de la conservation, rappelle Survival International. On songe notamment, en ce qui concerne l'Afrique, aux pygmées Bakaya de la République du Congo ou encore aux Bushmen du désert du Kalahari au Botswana. Pour plus de précisions, on écoute Mike Huron de Survival International.
C'est partout dans le monde que les peuples autochtones, les peuples indigènes, qui sont généralement les meilleurs défenseurs de l'environnement, subissent néanmoins des abus au nom de la conservation. Ils sont illégalement expulsés de leurs terres ancestrales, ils sont accusés de braconnage parce qu'ils chassent pour se nourrir et ils risquent la détention, les coups, la torture et même la mort aux mains des brigades anti-braconnage. Et la nouvelle campagne de Survival International, Les parcs sans besoin des peuples, vise à mettre fin à ces abus. Pour en donner quelques exemples, la persécution des pygmées Bayaka dans la République du Congo est signalée depuis au moins 2006. Beaucoup d'entre eux ont été expulsés de leurs terres et quand ils chassent dans leurs forêts, ils sont souvent considérés comme des braconniers en vertu de la loi. Donc des campements et des possessions sont réduits en cendres par des brigades anti-braconnage. Et ces brigades utilisent souvent la violence pour obtenir des informations sur le braconnage. Une femme Bayaka m'a parlé d'un incident où la brigade d'anti-braconnage lui avait dit d'éloigner l'enfant qui était à ses pieds. Puis il l'avait frappé sur le dos à plusieurs reprises et elle est tombée par terre. À chaque fois qu'il lui posait une question ou lui menaçait, il la battait de plus belle. Et donc cette approche détruit les vies et aussi ça ne protège pas l'environnement. Parce que ce système néglige les eaux placées qui organisent les réseaux de braconnage, ainsi que les autres menaces telles que l'exploitation forestière, par exemple. Comme un homme Baka au Cameroun m'a dit, ces brigades laissent mourir les éléphants en forêt tout en empêchant les gens de se nourrir. Et il faut souligner que les organisations comme le WWF, le Fonds mondial pour la nature, et le WCS, qui financent, recrutent et forment ces brigades, sont au courant de ce genre d'abus, mais n'ont pas pris la peine de se renseigner pleinement sur ce qui se passe sur le terrain. Donc ça veut dire que les peuples autochtones, les peuples indigènes, se retrouvent pris entre deux feux dans la lutte anti-braconnage.
Et les peuples autochtones ont en fait une science, une connaissance du terrain absolument unique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage d'efforts pour exploiter leurs connaissances pour que tout le monde puisse vivre en harmonie en protégeant l'environnement?
Les peuples autochtones comme les Baka et les Bayaka ont beaucoup de connaissances, beaucoup de codes de conservation très développés, mais les défenseurs de l'environnement, tels que le WWF, ne respectent pas vraiment ce genre de connaissances. Et peut-être le plus tragique, c'est que les Baka, par exemple, et les Bayaka disent que parce qu'ils ont peur d'aller loin dans la forêt ou d'y rester longtemps, ça devient impossible de transmettre ses connaissances et ses valeurs aussi, parce que une valeur très importante dans la philosophie Baka et Bayaka, c'est l'égalité. L'égalité dans la communauté, entre les hommes et les femmes, et entre les générations, et aussi entre la communauté et la nature. Donc si quelqu'un chasse trop, par exemple, si quelqu'un prend trop d'animaux, la chance dans la chasse sera un peu diminuée dans l'avenir. Donc toutes ces valeurs, toutes ces connaissances, en fait, sont en train de disparaître. Et c'est à cause de la conservation qui est pratiquée aujourd'hui.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger à négliger les populations autochtones, qu'on se prive, on prive l'humanité de connaissances, notamment botaniques, extrêmement précieuses, alors même que on se trouve confronté à la résistance de plus en plus dure de bactéries aux médicaments traditionnels?
Je dirais que le monde ne peut plus se permettre de suivre ce modèle de conservation qui élimine les peuples autochtones. Ça porte aussi bien atteinte à la diversité humaine qu'à l'environnement. Il y a tant de connaissances ethno-botaniques, médicales, oui, qui sont en train de disparaître. Et c'est une perte, comme vous le disiez, pour toute l'humanité. Survival International demande une nouvelle approche de conservation. C'est une approche plus juste, plus efficace et plus moderne. Et c'est fondé sur 4 principes. 1, que les peuples indigènes sont généralement les meilleurs défenseurs de l'environnement. Ils ont su gérer durablement leurs terres depuis de nombreuses générations. 2, expulser de force les peuples indigènes de leur territoire se traduit dans la plupart des cas par des dommages écologiques. 3, que ces expulsions constituent une flagrante violation des droits de l'homme et les défenseurs de l'environnement devraient s'y opposer. Et finalement, que le moyen le plus efficace et le plus rapide de conserver les zones riches en biodiversité est de respecter les droits des peuples indigènes.
Mike Ouran de Survival International, il était joint en Grande-Bretagne. Camille Grodidier, ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous suivez
Le magazine Carrefour Science et Santé qui vous est offert par VOA Afrique. Les autorités sanitaires de la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria se sont engagées à mettre fin à l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola d'ici à la fin du mois de mars. Mais la Guinée reste confrontée aux réticences des habitants de certaines localités, non loin de Conakry, la capitale. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
C'est un nouveau défi que se lancent les autorités sanitaires guinéennes. Il concerne aussi la Sierra Leone et le Libéria, deux pays dont les chefs d'État ont décidé il y a quelques jours à Conakry de mettre fin à Ebola avant fin mars. Ce défi vient allonger celui annoncé par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Mais à quelques jours de l'objectif zéro Ebola en 60 jours, une vingtaine de cas confirmés sont traités dans les différents centres du pays. Malgré ce bilan, le ministre guinéen de la Communication reste optimiste. Alhoussène Makanira Kake.
Les localités censées être réticentes, ce sont ces populations qui appellent le personnel soignant, le personnel humanitaire, dès qu'ils voient que quelqu'un est malade.
Les services sanitaires du pays affirment maîtriser l'épidémie, mais les réticences dans les nouveaux foyers proches de Conakry constituent de nouveaux défis. Fodeta Cecilia est responsable du service communication de la Coordination nationale de lutte contre Ebola.
Nous, aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas l'épidémie d'Ebola. C'est l'épidémie de la réticence, de la négation, du déni, l'épidémie de la révolte, je peux dire même de la rébellion, de certaines populations sachant parfaitement c'est quoi Ebola, connaissant bien la dangerosité du virus, sachant très bien la rapidité de contamination, les populations sachant tout ça refusent catégoriquement et s'attaquent à nos équipes de prise en charge ou de sensibilisation.
La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 1500 personnes en Guinée. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour le magazine Carrefour Science et Santé. Toujours concernant le virus à Ebola, eh bien, on signale le lancement en Guinée d'un essai de phase 3 pour tester l'efficacité du vaccin VSV. EBOV contre le virus à Ebola, un vaccin mis au point par l'Agence de santé publique au Canada. Il s'agit de déterminer si ce vaccin protège les personnes en contact avec des malades souffrant du virus à Ebola et si la vaccination des contacts permet de créer une zone tampon pour éviter la propagation de la maladie. D'autres précisions avec le docteur Marie-Pierre Preziosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
Il s'agit des deux candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola qui sont les plus avancés en termes de développement clinique. Donc le vaccin VSV EBOV, produit par le fabricant Merck, et le vaccin SHAD3 EBOV, produit par le fabricant GSK.
La vaccination va commencer dans quelle région ?
Elle va commencer dans la région de la capitale, Conakry, et dans les préfectures qui entourent la capitale, soit la région de la Basse-Guinée, car c'est là, à l'heure actuelle, qu'il y a les cas.
Et vous allez, bien sûr, vacciner des personnes après avoir demandé leur consentement, etc.
Tout à fait. Oui, il s'agit d'un essai clinique de phase 3, donc une étude clinique de phase 3, qui est faite selon les bonnes pratiques cliniques, qui requiert, bien évidemment, le consentement informé de tout participant.
Les vaccins développés par le Canada ont en fait rapidement émergé comme les outils prometteurs en raison de leur efficacité dans les études sur les primates non humains.
Tout à fait, oui. C'est bien cela. Et il y a eu aussi des études quand même chez l'homme qui ont aussi confirmé une bonne tolérance donc, et une bonne immunogénicité. On ne peut pas encore parler d'efficacité. L'efficacité, c'est un terme qu'on peut employer lorsqu'on constate que ça empêche la maladie. Là, on constate qu'il y a une réponse du système immunitaire avec un développement notamment d'anticorps qui sont dans les limites qu'on pense être protectrices, mais pour l'instant, on ne peut pas affirmer l'efficacité. C'est pour ça qu'on doit faire un essai clinique de phase 3. Ce qui est important, c'est que là, on doit vraiment retenir notre souffle parce que on pourrait rentrer dans une phase très importante pour cette épidémie et pour les futures épidémies Ebola. C'est que si on peut montrer qu'un vaccin marche, on aura alors un outil très puissant pour lutter contre ces épidémies aujourd'hui et à l'avenir.
Le docteur Marie-Pierre Preciosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé, elle était jointe à Genève, en Suisse. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du magazine Carrefour Science et Santé, un magazine présenté par VOA Afrique sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Intel, le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, s'est lancé cette semaine sur le marché des processeurs mobiles. Anne Albertson.
À l'occasion du Mobile World Congress, vaste kermesse des mobiles à Barcelone, Intel a présenté sa nouvelle puce Sophia. Elle est destinée à équiper les appareils d'entrée de gamme, un segment en forte croissance, notamment en Chine. Plus de 20 fabricants prévoient d'utiliser cette puce, a déclaré Aisha Evans, responsable plateforme ingénierie chez Intel. Sophia, qui vise les smartphones et tablettes bon marché, est idéale pour le marché à forte croissance des smartphones d'entrée de gamme en Asie, où ces appareils peuvent être vendus moins de $100, explique Intel, cité par l'agence Reuters. Les processeurs Sophia, actuellement commercialisés, sont compatibles avec la 3G pour les téléphones bon marché. Des versions compatibles avec la 4G seront lancés cette année.
Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. La sonde Dawn de l'Agence spatiale américaine, la NASA, est arrivée près de la planète naine Cérès cette semaine. Cette planète est située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le point avec Jacques Aristide.
En plus de cartographier la surface de Cérès et d'en étudier la structure interne, Dawn va tenter de déterminer si la microplanète a pu, à un moment dans son histoire, abriter une forme de vie. Dawn a été lancée le 27 septembre 2007. Dotée d'un moteur ionique, elle a bénéficié de l'assistance gravitationnelle de la planète Mars en février 2009 pour se propulser vers la protoplanète Vesta qu'elle a rejoint en juillet 2011 avant de repartir vers Cérès. Sa mission autour de Cérès doit durer jusqu'à juillet 2015. L'ingénieur Mark Riemann, directeur de la mission.
C'est la première fois en plus de 57 ans d'exploration spatiale que nous avons un vaisseau spatial dont la mission est d'atteindre deux destinations extraterrestres.
Vesta et Cérès sont toutes deux considérées comme des protoplanètes, des embryons de planètes. Mark Riemann, à nouveau.
Vesta et Cérès étaient en train de se former pour devenir des planètes de taille normale lorsque leur croissance a été interrompue.
Cérès mesure environ 1000 km de diamètre et contiendrait entre 15 et 25% d'eau. Sa surface serait percée par des geysers et elle pourrait même abriter un océan souterrain, pensent les chercheurs. L'une des responsables de la mission Dawn, Carole Raymond.
L'un des intérêts présentés par des protoplanètes comme Cérès ou d'autres structures aux limites du système solaire, c'est leur impact sur les planètes comme la Terre. Elles ont amené beaucoup d'eau, suscitant un débat vigoureux pour savoir si elles ont pu être la source principale de l'eau sur la Terre.
C'est en arrivant près de Vesta que Dawn a permis aux astronomes de découvrir l'ampleur de ses réserves en eau. Carole Raymond, encore une fois.
À la surprise de l'équipe, au lieu d'être très sèche, ce à quoi nous attendions, la surface de Vesta était dotée de taches témoignant d'importantes quantités d'eau dans les roches et peut-être même de l'eau à la surface qui aurait pu couler dans le passé.
Qui dit eau dit vie, ajoutent les scientifiques. Si les protoplanètes ont fourni de l'eau à la Terre, elles ont pu également semer la vie.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivie.